Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Bonjour à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport, votre émission de direct tout au long des après-midi du samedi et du dimanche. Alors il n'y aura pas beaucoup de direct dans ce début d'après-midi. On va tout de même en trouver quelques-uns, rassurez-vous, notamment du tennis avec les demi-finales du tournoi de Monte-Carlo et les barrages de la Billie Jean King Cup. On en parlera dans un instant avec nos spécialistes de tennis. On va également, comme tous les samedis après-midi, ouvrir notre magazine olympique dans quelques instants. On se rapproche des Jeux et on a pris les qualifications pour les Jeux Olympiques de nouveaux athlètes français. On sera dans un instant avec Ronan Labarre qui a appris hier qu'il disputerait le double en badminton aux Jeux Olympiques de Paris. Il sera notre invité. On sera également un peu plus tard avec Marie Bochet qui, elle, ne va pas faire les Jeux Paralympiques de Paris et pour cause, elle est une spécialiste de ski, mais elle vient de mettre un terme à sa carrière. Elle qui a, dans sa carrière, rappelez-vous, décroché 8 médailles d'or paralympiques. Elle est désormais membre de la commission des athlètes et elle est en train d'enterrer sa vie de sportif de haut niveau dans sa station des saisies. On sera avec elle tout à l'heure. Et puis, au programme cet après-midi, mais ce sera un peu plus tard. Vous savez, il y a du rugby avec les quarts de finale de la Champions Cup. Deux matchs intéressent les clubs français aujourd'hui. L'UBB qui sera opposé au Harlequin, ce sera à 16h. Le Leinster qui, sur sa pelouse irlandaise, reçoit La Rochelle. Coup d'envoi 18h30. On prendra les dernières nouvelles avec nos envoyés spéciaux. On suivra également la rencontre entre Ajaccio et Saint-Etienne, comptant pour la 21e journée de Ligue 2, et nous serons également un peu plus tard avec Amar Assi, directeur sportif du Paris Basket, le Paris Basket qui a décroché la Coupe d'Europe hier et qui va se voir qualifié pour l'Euroleague, la reine des Coupes d'Europe la saison prochaine. On en parlera avec lui. Voilà pour le programme de ces deux premières heures de l'Intégral Sport. On va tout de suite aller faire un tour sur les courts de tennis. Bah oui, il y en a partout, il y a de la terre battue sur tous les écrans. Alors il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre, un peu plus rouge que l'autre, c'est celle de Monte-Carlo, où on va retrouver Eric Salio. Elle est plus rouge parce qu'elle est au soleil, qui fait un temps magnifique aujourd'hui sur la Côte d'Azur et sur Monaco. Il a sûrement mis son magnifique short à pince. C'est notre ami Eric Salio. Ça va, Eric?
Salut Christophe, salut à tous. Il fait un temps magnifique, oui, ça je confirme. Et on a eu la chance ce matin de faire le fameux tournoi de la presse sur les cours annexes, là, et on s'est régalé avec un cadre magnifique. Mais bon, passons aux choses sérieuses, puisque c'est la première demi-finale qui a débuté depuis petite demi-heure entre Yannick Sinner et Stefanos Tsitsipas. Il y a 4-2 pour le grec, c'est une petite surprise. Il faut dire qu'il y a un peu diesel l'italien qui est soutenu par les, je ne vais pas dire les 10 000 personnes, parce qu'il y a quand même des supporters pour les Grecs, mais évidemment, tu t'en doutes, il y a une majorité de tifosi ici sur le central du Monte-Carlo. Et l'ovation qu'il a reçue à son entrée sur le court, c'est quelque chose, quoi. On sent vraiment que l'Italie est complètement gaga de ce garçon. Et avant de passer à la Billie Jean King, oh là, je veux dire la Fed Cup parce que j'y arrive pas.
Hein. C'est vrai que c'était plus facile à l'époque.
J'ai trouvé un nouveau job à Jeannot Rességuier.
Ah.
Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que mardi après-midi, il faut qu'il soit au club de Barcelone pour le comeback de Rafa Nadal. C'est officiel. Il est dans le tableau du tournoi de Barcelone. Il va jouer mardi après-midi. Donc, Jeannot va nous faire du commentaire en live. Et puis après, il va à Montjuïc pour le.
Ils vont le virer du club. Il parle trop fort, il hurle. Tu sais bien que ça se fait pas dans les clubs de tennis. Ils vont lui jeter les godasses à la figure, des pommes pourries et tout. Non, c'est pas possible. Très mauvaise idée.
C'est mauvaise idée. Bon, je suis désolé. J'ai essayé.
Mais bon, non, mais t'as raison. Alors, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'ai vu des images de Nadal. J'ai l'impression qu'il a perdu 10 kilos.
Oui, c'est ce que tout le monde dit, tu as raison.
Alors, je ne sais pas si c'est une image, une vraie image ou non, mais j'ai l'impression.
Il a dû perdre un peu de muscle, si c'est une activité.
Il a fondu, quoi.
Oui, il a fondu. Alors, il a fait un gros travail physique, à défaut de taper beaucoup sur le terrain. Mais en tout cas, il est dans le tableau. Ça, c'est la grande nouvelle du jour. Il jouera contre un Italien, Flavio Coboli. Je ne sais pas comment il a réagi, l'Italien, au moment du tirage au sort. Mais en tout cas, ça va être l'événement du début de semaine du côté de Barcelone. Parce qu'on sait qu'il a fait faux bond à Monte-Carlo. Il n'était pas prêt. Il ne s'estimait pas prêt. Mais là, visiblement, ça fait 3 jours qu'il est en Catalogne. Il a même collé apparemment 6-1 ce matin à Rublev. Donc tu vois, il tient quand même une jolie forme.
Eh ben voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On pourra en parler évidemment tout au long du week-end et on sera avec toi tout à l'heure un peu plus en détail pour évoquer notamment Hugo Humbert qui s'est arrêté hier au stade des quarts de finale. On parlera aussi de Djoko qui est là, lui aussi évidemment en demi-finale de ce tournoi de Monte-Carlo. Tout le monde s'inquiète pour lui. Bah, il est encore là le patron. Il est là, il nous montrera tout à l'heure de quel bois il se chauffe. À tout à l'heure Eric, nous changeons de terre battue. Alors celle-ci est beaucoup plus jaune. C'est peut-être le froid. Non, il fait même pas froid aujourd'hui. Il fait froid nulle part aujourd'hui sur le territoire français. Anthony Reich, on est au Portel. Mais la différence, c'est qu'au Portel, on est...
En intérieur, en indoor.
Voilà.
Bonjour.
Pour couvert.
Oui, exactement.
Pour c'est peut-être la raison pour laquelle la terre est jaune.
Ouais, elle a besoin de soleil, cette terre. Besoin de soleil, c'est une matière vivante, la terre battue. C'est pour ça qu'elle n'a pas la même couleur. Et donc, dans ce tour qualificatif pour la phase finale de Billie Jean Cup, la nouvelle formule Fed Cup, évidemment, que l'on connaît bien, l'équipe de France est opposée à la Grande-Bretagne. Après la première journée, un point partout. Caroline Garcia a perdu face à Emma Raducanu hier. Et Diane Paris, la jeune Diane Paris, avait parfaitement lancé les Bleus dans la première rencontre. Avec une belle victoire probante face à Katie Boulter, justement, la numéro 1 britannique qui est en ce moment sur le court face à Clara Burel. Et c'est un peu la sensation puisque Julien Beneteau, le capitaine de cette équipe de France, a décidé de laisser sur le banc Caroline Garcia après sa défaite d'hier. Et dans ce premier set, eh bien, trois jeux partout, c'est assez accroché, les jeux sont assez accrochés, mais Clara Burel, membre du top 50 mondial, tient bien la dragée haute à cette Britannique, Katie Boulter, qui a notamment gagné le tournoi de San Diego il y a peu. Donc c'est un vrai challenge pour Clara Burel, mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Trois jeux partout dans ce premier set.
Très bien. On rappelle que ça se fait au meilleur des cinq matchs, c'est ça, hein?
Oui, il faut avoir trois points. Donc là, on a d'abord deux simples aujourd'hui dans cette deuxième et dernière journée. Il y aura ensuite Diane Paris qui jouera face à Raducanu.
Ça peut se jouer cet après-midi si une équipe
se jouera quoi qu'il arrive cet après-midi.
Ah oui, parce que le double a lieu en fin de journée. D'accord.
Voilà, tout est sur deux jours.
Dans cette
nouvelle formule, il n'y a plus trois jours de compétition. Donc ça sera peut-être un double décisif. C'est possible en fonction des résultats des deux simples.
Bon, on va suivre tout ça avec toi tout au long de l'après-midi. On rappelle donc dans ce troisième match, hein, partout pour l'instant entre la France et la Grande-Bretagne, eh bien les deux jeunes femmes sont à égalité, trois partout dans la première manche. Voilà pour le tennis. Anthony et Eric restent avec nous tout au long de l'après-midi pour nous faire vivre les échanges. 14h13 sur RMC, il est l'heure d'ouvrir notre magazine olympique en route pour Paris 2024.
RMC, en route pour Paris 2024.
Et oui, parce que ça se rapproche à grands pas et les qualifications continuent de tomber jour après jour. Déception évidemment pour les uns et joie totale pour les autres. Et nous allons accueillir dans un instant un homme heureux, un homme qui depuis hier sait qu'il participera aux Jeux de Paris l'été prochain, engagé en double dans le tournoi de badminton. Et ce garçon se nomme Ronan Labarre. Bonjour Ronan.
Bonjour.
On est également avec Léna Marjac, notre badiste à nous, hein, qui a joué à son petit niveau quand même. Hein.
Pas comme Ronan, mais petit niveau.
T'as pas fait les Jeux
Olympiques, bien sûr, loin de là.
Bon, Ronan, j'imagine, grand soulagement, car tu n'étais pas maître de ton destin avant les matchs d'hier. Tu devais compter sur un faux pas de tes compatriotes et rivaux que sont les frères Popov. Heureusement pour vous, malheureusement pour eux, ils ont chuté, vous offrant donc le billet à toi et à ton camarade pour les Jeux. C'est terrible quand même de ne pas être maître de son destin et finalement de souhaiter une défaite de ses rivaux.
Soulagement, c'est vraiment le bon choix de terme. Ça a été les deux derniers jours très crispants suite à notre défaite au premier tour des Europes avec Lucas. On savait qu'on n'était plus maître de notre destin et voilà, mais ça a été de la patience, de la gestion de la frustration et heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ça tourne dans notre sens, mais voilà, on savait que ça aurait pu aller des deux côtés.
Ouais. Comment tu as vécu ce moment? Est-ce que tu as regardé le match des frères Popov ou alors tu étais dans ta coquille, tu voulais pas voir ce qui allait se passer? Comment vous avez vécu ça tous les deux avec Lucas Corbet?
Alors, on l'a vécu différemment. Lucas, lui, est rentré chez lui. Il a regardé de son côté. Moi, je suis resté à Sarrebruck, donc j'étais dans les gradins pour regarder avec un ami qui m'avait rejoint pour me soutenir. Et bon, bah, c'était assez horrible. Hein. Beaucoup de stress, le cœur qui palpite un peu, et puis voilà, un énorme soulagement derrière.
Et Ronan, justement, énorme soulagement. Mais j'ai échangé avec Lucas après la défaite de Christo et Tommy. Il m'a dit que vous deviez vous retrouver justement le soir même pour fêter ça. Comment ça s'est passé justement ces retrouvailles avec Lucas après la qualification?
Ouais, disons qu'on s'est adapté assez rapidement suite à la nouvelle. On s'est eu au téléphone et j'ai pris un train pour Paris dans l'après-midi. Et voilà, donc on s'est retrouvé le soir à Paris avec Lucas et des amis proches à nous. Et on a bu quelques coupes de champagne pour fêter ça.
Ah ouais, ça s'entend à ta voix, hein, un peu cassé quand même. Hein.
Un petit peu fatigué peut-être.
Renaud, comment se sont passés finalement les derniers mois, la cohabitation avec les frères Popov, sachant que tu t'entraînes souvent avec eux du côté de Fos-sur-Mer. Ce sont des bons camarades, hein, d'abord vous pratiquez le même sport, vous êtes en équipe de France ensemble, même si c'était tes rivaux. Et est-ce que les bons jours ont été plus froids pendant cette période où vous avez essayé justement d'évacuer tout ça et de rester potes, quoi, finalement?
Ouais, non, la relation est toujours restée hyper saine, hyper positive. Donc ça, c'était génial. Et j'en profite pour les remercier et remercier leur structure, leur père de m'accueillir au quotidien pour m'entraîner avec eux. Et voilà, c'est une belle image du sport parce qu'on peut être concurrent direct pour un événement exceptionnel et en même temps réussir à vivre une concurrence saine et à se tirer vers le haut.
Ouais. C'est vrai que c'est chouette, c'est une belle image de sport effectivement de ne pas s'arracher les cheveux dans une telle situation parce que c'est tellement tendu. Participer aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France, toi tu as 34 ans, donc ce seront a priori tes derniers Jeux, même si on peut pourquoi pas aller jusqu'au bout, mais a priori je pense que ce sera terminé après ces Jeux. Tu as vécu une belle et longue carrière, mais tu n'as jamais disputé des Jeux Olympiques. C'est quoi, ça représente quoi pour un athlète de disputer les Jeux à Paris pour la première fois et la dernière fois?
Je réalise pas encore complètement, mais c'est un accomplissement déjà en tant que sportif de réussir à se qualifier au jeu. J'avais essayé en 2016 et j'avais fini remplaçant un en double mixte. Donc un accomplissement, beaucoup de fierté. Et puis après, voilà, le fait que ça soit en France, à domicile, que mes proches, mes parents, ma conjointe, ma fille puissent partager ça avec moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis ça, on va dire que ça valide tous les sacrifices supplémentaires qui ont été faits ces dernières années. Voilà, j'ai une petite fille de 2 ans que j'ai moins vue cette année de qualification olympique avec tous nos déplacements. Et voilà, c'est des moments difficiles, mais quand il y a la cerise sur le gâteau à la fin, on pardonne tout.
C'est l'aboutissement d'une vie d'athlète, quoi, en quelque sorte. Hein.
Moi, pour le coup, c'est l'aboutissement. Et puis, c'est vraiment le pompon sur la Garonne, comme dire ma sœur. Je finis là-dessus. J'ai eu peur de jouer mon dernier match à Sarrebruck mardi dernier, international. Et finalement, l'aventure se prolonge pour 3 mois pour finir à Paris par le plus bel événement sportif, les Jeux. Donc, que du bonheur.
Magnifique, magnifique histoire que tu vas vivre donc en famille en plus avec ta petite fille, avec ta compagne, avec tes amis et avec ton équipier donc Lucas Corvet, ton vieux complice avec lequel tu disputes les tournois depuis la crise du Covid, je crois. Et pourtant, alors c'est assez étonnant, mais vous n'habitez pas au même endroit et donc vous ne vous entraînez pas ensemble. Est-ce que ça pose un problème ou vous arrivez à compenser justement le fait de pas jouer tout le temps ensemble? Bon, il y a beaucoup de tournois en ce moment, surtout à l'approche des Jeux Olympiques, mais comment ça se gère au quotidien le fait de ne pas s'entraîner ensemble? Parce que c'est indispensable en double nom pour avoir les automatismes.
Alors c'est un long débat. C'est sûr que la plupart des gens en double s'entraînent ensemble. On nous a souvent poussé, les entraîneurs nationaux, à passer plus de temps ensemble, faire plus de stages, se retrouver. Mais on savait quand on a lancé cette idée, d'ailleurs je remercie Lucas qui est venu me proposer ce projet en 2021, de repartir 3 ans ensemble. On savait que moi, je déménageais dans le sud et lui, il resterait à Paris. Donc, c'était un petit peu le deal initial dans notre organisation. Et voilà, on a peut-être la chance d'être 2 joueurs plus expérimentés. avec un petit peu de bouteille, ce qui nous permet de nous adapter plus facilement à l'autre. Mais c'est vrai qu'on a pu voir, ces trois dernières années que sur certaines compétitions, quand ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble ou longtemps qu'on n'avait pas pu s'entraîner ensemble, bah, on avait des résultats qui étaient un petit peu moins bons. Et donc on a un petit peu essayé de bosser là-dessus pour se retrouver avant les gros événements sur des stages ou pour enchaîner plus de compétitions d'affilée pour que notre niveau monte en puissance au fur et à mesure. Mais bon, à la fin, le résultat est là, donc finalement, c'était un bon choix. Peut-être que si on avait été au quotidien ensemble, on ne se serait pas supporté.
Ah oui, c'est ça, les vieux couples. Hein. C'est souvent comme ça. Il faut un peu de séparation de temps en temps, ça fait du bien, ça donne de l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement maintenant, avant les Jeux Olympiques, Renan? Est-ce que vous allez vous retrouver? Est-ce que tu vas venir à Paris? Est-ce que Lucas va descendre dans le sud? Vous allez couper la poire en deux, vous retrouvez aux alentours de Lyon? Je ne sais pas, raconte-nous comment vous allez vous organiser pour vous entraîner, parce que là, bon, il y a les Jeux maintenant, hein, donc là on compte sur vous. Hein.
Ouais, bah là c'était la première étape, réussir à aller aux Jeux. Et puis maintenant, l'objectif c'est d'arriver le plus fort possible pour essayer de réaliser une performance sur les Jeux. Là on va commencer par couper un peu, parce que ça a été une année de dingue. On n'en peut plus, physiquement et psychologiquement, donc on a besoin de souffler un peu. Ça va durer une semaine, 15 jours je pense. Et puis après, on va reprendre avec pas mal de travail physique. On a fait le choix avec Lucas, nous, de ne pas nous inscrire sur des compétitions avant les Jeux. Donc on va être sur une grosse période d'entraînement et on devrait se retrouver pas mal pour s'entraîner ensemble sur l'INSEP. Donc c'est moi qui vais monter un peu plus avec normalement des sparring partners étrangers qui devraient être là au quotidien à l'entraînement. Et voilà, ça sera notre moyen de nous préparer pour affronter le top niveau mondial fin juillet.
Vous avez un objectif sur ces Jeux, Renan, et quel est-il? Est-ce que vous pouvez envisager d'aller jusqu'à la médaille, ou alors c'est complètement utopiste? Enfin, quel est votre objectif sur ces Jeux Olympiques?
Alors bon, on vient de qualifier, donc on n'a pas encore eu le temps vraiment de parler ensemble. Donc je vais parler pour moi. Ça reste du sport. Les 15 ans de carrière m'ont montré que tout était toujours possible. Après, voilà, sur le papier, on est la 13e ou la 14e équipe qualifiée sur 16. Donc on est outsider plus. Voilà, il ne faut pas se le cacher. On sera dans une poule de 4 avec deux équipes du top 8 mondial. Alors que nous, on est actuellement classé autour de la 35e place. Donc, ça sera un énorme chantier.
Mais vous y allez sans pression, quoi. En fait, vous allez faire ce que vous
pouvez. On y va sans pression et on y croit.
Et voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, il y aura l'appui du public. Et puis, les Jeux, c'est à Paris. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent vous faire surperformer, justement, dans cette compétition, quoi. C'est...
Carrément.
un tout petit mot, Renan. On a beaucoup parlé des frères Popov ces derniers temps. Une véritable hype s'est développée autour d'eux. Un peu à l'image, d'ailleurs, de celle autour des frères Lebrun en tennis de table. Hein. Aujourd'hui, pour être dans les médias, faut faire les compètes en jumeaux, hein, ou en frères, ça marche bien. Comment vous l'avez vécu, ça? Est-ce que c'est pas un peu agaçant pour des athlètes finalement qui font leur boulot aussi et qui sont performants, puisque c'est vous qui allez aller faire les Jeux en double en tout cas? C'est agaçant ou alors finalement ça fait du bien aussi au bad?
Non, c'est pas du tout agaçant. Nous, on est un petit peu plus ancienne école, on est moins réseaux sociaux. Et eux le gèrent très bien. Ils sont plus jeunes. Ça fait partie du sport aujourd'hui. Ça fait partie du business model d'un sportif de haut niveau. Et donc, ils ont complètement raison de le faire. Ils le font. Ils le gèrent très bien. Et je suis très content qu'il y ait de plus en plus de visibilité pour le badminton, de plus en plus de médias présents sur nos compétitions. Grâce à des joueurs comme eux. C'est pas les seuls. On a aussi Tom Jiquel, Delphine Delrue. Qui ont fait des très belles performances dernièrement. Mais voilà, c'est génial pour notre sport. On sait que les petites histoires, voilà, les fratries, comme les Lebrun ou les Popov, c'est quelque chose qui marche bien, qui fait du buzz. Donc tant mieux pour nous, tant mieux pour le tennis de table. Et vive les sports de raquettes.
Exactement. Et ben voilà une belle conclusion. Merci beaucoup, Renan. On te souhaite une bonne préparation, bon repos déjà, une petite semaine à décompresser tranquille. Et ensuite, eh bien, reprise de l'entraînement. Et on ira vous soutenir lors des Jeux Olympiques. Les épreuves de bade se dérouleront à quel endroit d'ailleurs ?
À l'Adidas Arena.
À l'Adidas Arena. Ouais. Magnifique.
Magnifique
Porte de la Chapelle, où le Paris Basket est devenu champion d'Europe hier. Voilà, il y a de bonnes ondes là-dedans. Merci Renan. Et bravo encore pour cette qualif. Juste un petit mot, Léna, concernant la place en simple, parce qu'il y a une seule place. Et là aussi, elle n'est pas encore acquise. Et ça sera pour l'un des deux frères Popov.
Exactement. Alors pour l'instant, au classement, c'est le plus jeune, Christo, qui est devant. Mais tout va se jouer en fin de journée, puisque Thomas Junior, son grand frère, est en demi-finale des championnats d'Europe. Alors il va jouer contre le numéro 1 mondial, un Danois, Victor Axelsen. Si jamais il gagne et qu'il atteint donc la finale de ces championnats d'Europe, c'est donc Thomas qui va passer devant son petit frère. Et à l'inverse, s'il s'incline ce soir, eh bien c'est Christo, le plus jeune, qui sera le représentant français aux Jeux Olympiques en simple.
On aime bien les scénarios à la Hitchcock dans le badminton.
C'est un petit peu ça. Là, toute la semaine, c'est un peu ça. Wow. On se bat pour cette seule et unique place.
Les émotions négatives et positives que doivent vivre tous ces athlètes. Merci, Léna. Tu reviens dans quelques minutes pour le magazine olympique. Il y a quoi dedans au programme ?
On va parler de Léon Marchand.
Ah tiens, ça fait longtemps.
Eh ben oui, il débute sa saison au Grand Bassin. Donc on va en parler.
Parce qu'il a été dans des bassins américains, donc c'est des bassins intermédiaires.
Voilà. Et donc là, il commence dans les vrais bassins, celui qu'on aura comme aux Jeux Olympiques. On va parler de Renaud Lavillenie aussi, et de judo avec Madeleine Malonga.
Parfait, beau programme, ce sera dans une dizaine de minutes. Mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris et nous vous offrons 100 places sur RMC. Dès aujourd'hui, dans chaque émission d'RMC, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves mythiques des Jeux, que ce soit la cérémonie d'ouverture, les finales du 100 mètres de judo, le tournoi de judo, le tournoi de tennis de table, la natation, 4x4 nages et bien plus encore. Pour espérer vous qualifier vous aussi pour ces Jeux Olympiques, vous envoyez Paris 2024 au 7 32 16 avec ou sans espace, au choix entre Paris et 2024. Donc Paris 2024 au 7 32 16. À tout à l'heure avec un gagnant. 14h28, vous êtes sur RMC. On revient dans un instant. Nous allons parler non pas des Jeux d'été, mais nous allons parler avec une grande championne qui tire sa révérence, Marie Bochet, octuple championne paralympique de ski. Enterre sa vie de sportive aujourd'hui. Enterre, c'est un bien mot. Elle l'a faite en tous les cas dans sa station d'essai. Elle sera avec nous dans quelques instants.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h32, vous êtes sur RMC Intégral Sport. On fait un petit point sur nos deux directs de ce début d'après-midi. Ils concernent tous les deux le tennis avec la première demi-finale du tournoi de Monte Carlo. C'est évidemment dans le plus beau tournoi de tennis au monde. Le Monte Carlo Country Club, qui est le tournoi préféré d'Eric Salio, évidemment. La première demi-finale est en cours. Elle oppose Tsitsipas à Sinner. Et la première manche est revenue à celui qu'on attendait un peu moins, Eric.
Oui, Stefano Tsitsipas a vraiment logiquement poché la première manche. 6-jeux à 4, il devait vraiment un jeu très, très performant sur terre battue. On avait déjà eu un aperçu contre Sacha Zverev il y a deux jours. Et là, contre Sinner, il a eu... Sinner n'a pas été bon sur un jeu de service et il n'a jamais vraiment été en position de débreaker. Donc 6-4 pour Stefano Tsitsipas. Sinner mène un jeu à 0 dans la deuxième manche, alors que l'horloge indique 51 minutes, mais je te confirme, c'est le plus beau central du monde, c'est le plus beau cours du monde entre mer et montagne.
Magnifique, magnifique, effectivement. On voit quand même les gens s'éventer, il a l'air de faire bien chaud.
Il fait très chaud. Et l'invité, je pense que tu connais une star internationale qui s'appelle Zendaya.
Ah oui, qui joue dans Dune.
Bravo, mais monsieur est cultivé. Attends, bravo, je pensais te piéger, mais pas du tout. Bravo.
J'ai des enfants qui sont fans, mon petit gars. Ma fille rêve d'être Zendaya, donc voilà.
Veux-tu que je ramène un autographe ? Bon, elle a 25 gardes du corps, mais je peux essayer. Hein, si tu
vas avoir du mal à l'approcher. Ils vont dire non, monsieur, aussi, le vieux monsieur, là, on ne veut pas le voir. À tout à l'heure, Eric. Anthony Rache, avec lui, on est au Portel. C'est moins chic, mais c'est pas mal aussi quand même.
Hein. Oui, il y a beaucoup de chaleur humaine. Ah,
il y a beaucoup de chaleur humaine. Dans le Nord.
Dans le Nord. Et ils ont toujours très bien accueillis pour la Billie Jean King Cup. Et 4-3 pour Katie Boulter dans ce premier set face à la jeune française Clara Burel, qui va peut-être avoir des regrets parce qu'elle a eu 5 balles de break sur le jeu de service précédent de la Britannique, mais elle n'a pas réussi à les concrétiser, les transformer. Donc 4-3 dans le premier set, et on rappelle un point partout après la première journée d'hier. C'est déjà un match pour prendre les devants dans cette deuxième et dernière journée de tour qualificatif entre la France et la Grande-Bretagne.
Merci Anthony. 14h34, elle est de retour, Léna Marjac, pour le journal olympique dans notre magazine En route pour Paris 2024. Léna, va commencer avec l'innovation de ces Jeux olympiques. L'équipe de France aura sa maison de la performance. Ça va servir à quoi, cette histoire?
Oui, c'est forcément la première question que tu dois te poser. C'est surtout, qu'est-ce qu'une maison de la performance? Alors, c'est tout simplement un lieu tel un immense vestiaire où les membres de l'équipe de France, donc les athlètes comme le staff, accrédité ou non d'ailleurs, eh bien, tous ces membres pourront se retrouver dans un endroit calme et aussi surtout loin du stress du village olympique. Et cette maison, elle sera installée dans le lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen, à deux pas du village, Alicia Baird.
Bientôt, les salles de classe seront transformées en espace sauna pour la récupération ou en salle de musculation pour les athlètes français. Et ce n'est pas trop tôt pour Guillaume Gilles, sélectionneur de l'équipe de France masculine de handball.
Pour avoir eu la chance de faire plusieurs Jeux Olympiques, on a toujours un peu envié le pays hôte en voyant l'espace dédié dont il pouvait jouir.
En tout, 9000 m² dédiés à la performance, des salles d'entraînement, un gymnase annexe pour le hand et le basket, des espaces pour les soins médicaux et même deux terrasses avec des écrans pour se détendre et regarder les épreuves à la télé.
C'est un lieu qui va nous permettre de pouvoir travailler sereinement, où on va pouvoir rencontrer l'extérieur des membres du staff qui ne pourraient pas être accrédités au sein du village.
L'objectif est d'éviter les contraintes liées au jeu, comme le temps de déplacement ou les créneaux d'entraînement limités. Jean-Aimé Toupane, entraîneur de l'équipe de France féminine de basket.
La grande différence, c'est qu'au village, on a tout le monde et que parfois les créneaux vont être limites, on va être pris par le temps. Et là, ça va nous permettre vraiment de nous retrouver dans un endroit beaucoup plus serein. On a mis des créneaux d'entraînement le matin de 9h à 13h, l'après-midi de 14h à 18h.
Avec cet investissement de 4,5 millions d'euros, l'Agence nationale du sport espère atteindre son but, le top 5 au classement des médailles. Claude Onesta, manager général de la haute performance.
C'est pas la caisse à outils qui fait le bricoleur. Donc tout ça est à disposition et il faut arriver à optimiser tout ça pour le transformer en résultat sportif.
Les fédérations françaises prendront leur quartier dans cette maison de la performance le 23 juillet prochain.
Et on n'est d'ailleurs pas les premiers à faire cela, une maison de la performance. C'était déjà le cas pour les Anglais lors des Jeux de Londres. Ils avaient installé eux aussi cette maison. Et donc autour des Français.
Très bien, ce ne sera pas le Club France, hein. Ce sera un truc complètement différent.
C'est totalement
le Club
différent.
France, ce sera pour faire la fête.
Exactement. Là,
et pour travailler, hein, Léna, hein, parce qu'on va travailler là-dedans.
Aussi,
nous, hein.
On va travailler. Ouais. Mais là, c'est vraiment une maison où tout le monde peut se retrouver pour d'une s'entraîner, avoir des soins, surtout s'entraîner.
Eh ben, c'est super, c'est magnifique. La maison de la performance au lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen. Des nouvelles de Léon Marchand qui débute sa saison en grand bassin. Il était temps.
Hein. Eh oui, c'est le grand début de la saison en grand bassin au tir pro swim de San Antonio. Et à quelques mois des Jeux Olympiques, Léon Marchand attendait ce retour en grand bassin avec impatience.
Plutôt content du 200 papillons hier, au final. C'est mon meilleur temps en saison, donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et ce soir, le 404, un peu moins bien. Je pense qu'il y avait pas mal d'erreurs pendant la course, et au final, le temps, il est pas très bon, mais sinon, voilà. Donc c'est un peu mitigé pour l'instant. Enfin, je pense surtout qu'il y a deux semaines, j'étais au NCA, j'ai tout donné nerveusement, énergétiquement, etc. C'était super, mais c'est vrai qu'après rebondir, c'est pas facile. Il se passe pas mal de choses en plus avec, il y a eu un gros changement, donc ouais, c'est pas facile. Mais je suis content de, voilà, tourner la page, essayer de commencer ma saison en grand bain, et c'est bien de commencer par une compétition comme ça. Là, je me rapproche quand même parce qu'au final, c'est du grand bassin. C'est des courses que je vais faire au JO. Donc, c'était aussi un peu le but d'avoir des repères un peu cette semaine. C'était le but, c'est un test. Et forcément, dans ma tête, ça grandit de plus en plus, les JO.
Et l'autre actualité concernant Léon Marchand, c'est qu'il devient, professionnel. Ce qu'il veut dire, plus d'université américaine, il se consacre pleinement à la natation. Et d'ailleurs, ça lui permettra de suivre son entraîneur Bob Bowman, qui lui va partir entraîner l'université du Texas.
Eh bien, Léon Marchand, évidemment, future star annoncée de l'équipe de France de natation. Mauvaise nouvelle, en revanche, pour l'équipe de France d'athlétisme.
Et oui, rupture du tendon d'Achille pour juste Kouaou Maté, le médaillé de bronze au dernier championnat du monde en salle sur 60 mètres haies, et donc forfait pour les Jeux Olympiques de Paris. Une grave blessure qui est survenue pendant un stage à Dubaï. Le Français de 24 ans a été rapatrié en France cette semaine. Il a été opéré également avec succès. Et donc, maintenant, place à de longs mois de convalescence.
Lui, il rêve de se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est le perchiste Renaud Lavillenie.
Oui, il est éloigné des sautoirs depuis de longs mois en raison d'une blessure aux ischio-jambiers et Renaud Lavillenie n'a donc toujours pas repris la compétition et n'a toujours pas son ticket olympique. Mais le perchiste de 37 ans, champion olympique à Londres en 2012, ne veut surtout pas se mettre de pression avec cette qualification.
Tous les athlètes français rêvent d'y aller. Et en fonction des sports, en fonction des disciplines, il n'y aura qu'un certain nombre très restreint. Pour nous, soit à la perche et en athlète, c'est que 3 par pays, 3 par discipline. Nous, il y en a beaucoup qui vont être frustrés. Lesquels le seront, on ne sait pas encore. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie du sport, de toute façon. Il y aurait une énorme frustration si c'était vraiment mes premiers ou les deuxièmes, où j'avais vraiment un gros truc à jouer. Là, je veux dire, j'en ai déjà fait 3, j'en ai déjà gagné un, fait deuxième sur l'autre. Je suis déjà plus que bien, donc les Jeux de Paris pour moi c'est que du bonus si ça arrive, et je le prends comme ça pour que je pense que c'est ce qui m'aidera à être le meilleur possible quoi.
Interview donc réalisée par Alicia Bert, reporter RMC Sport. Et une autre petite info, Renaud Lavillenie espère donc reprendre la compétition le 22 mai prochain lors du meeting de Clermont donc à la maison chez lui.
C'est officiel, la judokate Madeleine Malonga qualifiée pour les Jeux Olympiques. C'est la fin du suspense, Léna.
Et oui, ça y est, donc grâce à sa victoire lors du Grand Slam d'Antalya en Turquie, ça a permis à Madeleine Malonga donc de valider son ticket olympique, et forcément beaucoup de soulagement pour la judokate.
Quand même, je pense qu'il va avoir plus de sérénité. C'est le mot, de la sérénité. Forcément, ouais. Ouais, c'est bon, c'est fait, maintenant je suis en préparation. Même si on est toujours un peu en préparation, mais il y a ce truc-là qui... Ouais, c'est une fierté immense de pouvoir représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris.
Et Christophe, tu parlais de suspense, fin de suspense, parce que pour rappel, donc chez les moins de 78 kilos, eh bien le comité de sélection de la Fédération Française de Judo n'avait pu départager Madeleine Malonga et Audrey Tchemeo. Alors toutes les deux ont participé à une ultime compétition. Tchemeo a terminé 5e, ce qui la prive de ses 3e Jeux Olympiques. Beaucoup de déception pour la judokate.
Je suis plus en colère que triste, on n'a pas le temps de pleurer, mais quand il y a une sorte d'injustice, pour moi, j'aime bien le revendiquer. Et que voilà, je suis une championne, voilà, c'est me relever et on va aller jusqu'au bout de l'aventure.
Ouais, Audrey Tchemeo qui parle d'injustice. Alors on peut comprendre évidemment sa déception, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une injustice. Jusqu'au dernier moment, on les a laissés se départager, les deux jeunes femmes. Elles se sont même combattues, je m'en souviens, à Bercy, il y a quelques semaines. Malonga s'est imposée. Là, elles avaient un tournoi à chacune pour montrer qu'elles étaient la meilleure. Audrey, malheureusement, n'est pas allée au bout. Malonga, la semaine d'après, a remporté son tournoi. Donc ouais, je comprends qu'elle soit terriblement déçue.
Ce que Audrey Tchemeo regrette, c'est que cette qualification olympique a été sur 2 ans, sur plusieurs mois, oui. Et qu'on les a mis finalement sur un one shot, une compétition chacune pour se départager, alors que ça faisait des mois et des mois qu'elles étaient en compétition.
Elles étaient quasiment côte à côte, hein, depuis des semaines et des semaines. Terrible, évidemment, hein, on comprend la déception. La semaine prochaine, de nouveaux billets vont être mis en vente pour les Jeux Olympiques. Moi, j'en fais gagner, mais on peut en acheter aussi.
On peut en acheter, et c'est également à l'occasion du J-100 avant les Jeux de Paris. Et le comité d'organisation a décidé de remettre 250 000 billets à la vente. Une annonce faite cette semaine par Tony Estanguet.
On va mettre en vente de nouveaux billets. Voilà, donc plus de 250 000 nouveaux billets seront mis en vente dans tous les sports, toutes les catégories de prix et sur tous les sites de compétition. Celles et ceux qui ont raté jusqu'à présent l'opportunité, il va rester quelques opportunités pour l'ensemble de ces sports.
Alors sur l'ensemble de ces billets, la moitié sera à moins de 50 euros. Et c'est comme d'habitude, hein, c'est le premier arrivé, premier servi. Il faudra être tout de suite sur la plateforme,
exactement,
dès l'ouverture.
Exactement, c'est chaud, hein, pour se qualifier pour les Jeux ou pour décrocher des billets pour les Jeux. Merci Léna, voilà le journal olympique au complet. Et bah tiens, tu parlais des billets, bah moi je vais faire un heureux gagnant tout de suite. Et j'accueille Grégory qui a donc envoyé à Paris 2024 au 7-32-16. Salut Grégory.
Bonjour Christophe, putain c'est génial.
Ah, j'aime bien là je sens que je fais un heureux. Ben oui, parce que t'es l'un des gagnants des 100 places qu'RMC offre à ses auditeurs. Et alors tu vas avoir le choix. Ah, choix cornélien évidemment, mais bon, ouais. Il faut savoir faire des choix dans la vie. Ouais. Donc je te propose soit deux places pour assister aux demi-finales, puis aux finales qui auront lieu au Stade de France le 5 août en athlétisme. Il y aura notamment au programme le 800 mètres dames et le saut à la perche homme, avec quand même Duplantis, ouais. Peut-être ouais. Lavillenie. Et Thibaut Collet, enfin je veux dire, ça va être énorme. Soit deux places pour assister là aussi à des demi-finales et des finales à la natation le 29 juillet à Paris La Défense Arena. Alors je ne peux pas te dire quel est le programme qu'il y aura ce soir-là. A priori, il n'y aura pas de finale de Léon Marchand ce soir-là, mais enfin, il y aura quand même peut-être des demi-finales et il y aura de toute manière un truc incroyable. Donc soit l'athlé, soit la natation. Waouh, c'est les deux sports majeurs des Jeux quand même, hein.
Ouais, c'est ça. Mais moi, il y a un truc qui me fait vibrer, c'est le Stade de France. Nous, on est loin ici, et j'ai jamais mis les pieds là-bas, quoi. Et voilà, quoi.
Donc, tu habites où ?
Même, entre Lyon et Grenoble, la Tour du
Pin. D'accord. Ah bah ouais, alors Stade de France, c'est sûr que c'est un endroit mythique, ouais, évidemment.
Voilà. Pour le lieu, voilà.
Eh bah écoute. Eh ben tu vas te régaler. Donc ce sera le 5 août prochain au Stade de France avec la finale du saut à la perche notamment. Et il y aura d'autres concours, tu peux regarder. Hein, c'est le 5 août, tu as les programmes déjà qui sont tombés. Ça va être une belle journée à profiter à deux. Merci, bravo Grégory.
C'est génial, merci Christophe. Bonne journée.
Bonne journée
à tous.
Voilà, et on continue évidemment de faire gagner des places à nos auditeurs. Donc restez attentifs, il y aura encore quelques beaux cadeaux qui vont suivre dans la journée et au cours du week-end. 14h45 sur RMC, on revient dans un instant. Marie Bochet devrait être avec nous dans un instant.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h48 sur RMC, l'intégral sport jusqu'au bout de la nuit évidemment. Nous continuons d'ouvrir les pages, de feuilleter les pages de notre magazine olympique en route pour Paris 2024. Et on accueille une immense championne française qui aujourd'hui, aujourd'hui elle est enterrée. C'est terrible. En tous les cas, elle enterre sa vie de championne. Marie Bochet est avec nous en direct des saisies. Bonjour Marie.
Bonjour.
Comment ça se passe cet enterrement ?
Ça se passe bien, on a une super journée de grand soleil, grand beau temps, et c'est une belle journée.
Voilà, ah, c'est incroyable ça, de trouver ce nom-là, un enterrement. Alors moi je connaissais les enterrements de vie de jeune fille, mais là, enterrer sa vie de sportif de haut niveau, c'est nouveau. On rappelle que tu as vécu une carrière sportive incroyable, plus de 15 ans au plus haut niveau, 8 médailles d'or paralympiques, des titres mondiaux, des gros globes, tu as gagné dans toutes les disciplines du ski alpin, franchement, chapeau, et tu as terminé en beauté cette saison il y a quelques jours avec deux nouveaux globes, deux petits globes cette fois-ci, et une deuxième place au classement général de la Coupe du Monde. Voilà, je pense que tu avais un peu fait le tour de la question, non ?
Oui, clairement, il était temps d'arrêter. Je pense que la décision n'a pas été trop difficile à prendre parce que le timing était le bon. J'avais vécu toutes les émotions que je souhaitais vivre dans ma carrière. Et voilà, il était temps de passer à autre chose et de mettre mon énergie ailleurs.
Ouais. C'est quoi qui te pousse à arrêter là ? La lassitude, l'envie de passer à autre chose, de vivre une deuxième carrière ? Parce que maintenant, c'est une deuxième carrière qui s'ouvre à toi. Tu es encore toute jeune, tu as 30 balais. Hein, donc, il y a encore pas mal de choses à faire, hein, quand on a 30 ans.
Oui, exactement. Non, c'était un ensemble de choses. En fait, c'était un petit peu de lassitude de la compétition. Je pense que j'en avais fait le tour. Un petit peu aussi l'envie de vraiment mettre l'énergie ailleurs. En fait, c'est d'essayer des nouvelles choses, de me mettre un peu en danger en faisant en changeant un petit peu d'univers aussi, et puis changer de rythme de vie aussi. J'avais envie de changement et ça passait forcément par cette grande décision.
Alors c'est quoi les projets à court terme de Marie Bochet ? Tu vas rester dans le domaine du sport, dans le domaine du ski, ou tu vas ouvrir justement sur d'autres choses ? Dis-nous tout.
C'est pas très loin du sport, pas très loin du sport. Je vais avoir du mal à m'éloigner vraiment de cet environnement-là. À très court terme, je vais être présente au jeu en tant que consultante pour une radio concurrente à la vôtre sur Paris, voilà, olympique et paralympique. Donc voilà, une belle expérience que j'avais déjà initiée l'année dernière lors des championnats du monde. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de se retrouver de l'autre côté du monde des médias.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, une concurrente, et là, une sacrée concurrente là, attention, hein, ça va faire mal. Marie, je crois que tu es également très impliquée justement sur les Jeux de Paris 2024, tu fais partie de la commission des athlètes, et puis il y a aussi les Jeux de 2030 qui vont arriver dans ta région, même si après, je ne sais pas s'il y aura des épreuves aux saisies, parce que pour l'instant c'est un peu la négociation pour savoir où auront lieu toutes ces épreuves. Là aussi, c'est des choses qui te donnent envie de participer ?
Oui, c'est certain que moi, je crois dans les valeurs du paralympisme et de l'olympisme parce qu'ils ont forgé la vie que j'ai aujourd'hui. Et voilà, j'ai forcément beaucoup de joie à l'annonce de ces projets à la maison en France. Alors effectivement, il n'y aura peut-être pas d'épreuves dans le Beaufort, mais il y en aura en Savoie. Et en fait, on sait l'impact que peuvent avoir les Jeux sur un territoire global. Et donc c'est sûr que voilà, c'est des opportunités. Et voilà, il n'y a encore rien d'acté, rien de décidé, mais c'est sûr que voilà, c'est des projets qui donnent envie.
Bien sûr. Et pour ces Jeux de Paris 2024, donc, on sait que c'est un rendez-vous important pour les Paralympiques. Hein. On en parlait tous les jours. Est-ce que tu penses que c'est un tournant pour le mouvement paralympique que ces Jeux organisés à Paris ? On sent que tout le pays est mobilisé hein, pour cet événement, et notamment pour les Paralympiques, dont on parle plus peut-être que lors des précédentes éditions.
Oui, c'est sûr que voilà, d'accueillir les Jeux paralympiques, ça permet de mettre un vrai coup de projecteur sur le handicap et du coup de confronter un peu les Français aussi à ces questions-là et donc de rendre le sujet moins tabou et donc forcément de lui donner un petit peu plus de lumière et voilà d'attirer un petit peu l'intérêt autour de ces pratiques qui sont fantastiques et du niveau des athlètes qui est incroyable.
Marie, parle-nous un peu de cette fête aujourd'hui. Les saisies, c'est quand même une petite station, évidemment, comparée aux grandes stations usines à ski. Mais alors, c'est une station qui a donné à la France un paquet de champions. On pense évidemment à toute la famille Picard. Hein. On pense aussi aux biathlètes, copines, pas toujours copines, mais en tous les cas très performantes, Julia Simon et Justine Brezaz. On pense à la skieuse Clara Direz. Et également à toi, c'est incroyable d'avoir autant de champions dans une seule station.
Oui, ben on a des terrains de jeu exceptionnels, donc ça explique certainement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le sport ici et effectivement qui font émerger quelques talents. Et c'est vrai que voilà, on est une vraie terre de champions et dans différentes disciplines. Et en tout cas, c'est toujours très inspirant. Moi-même, j'étais inspirée par Franck Picard. On a une station qui est olympique dans le Beaufortin et voilà, de passer devant la flamme tous les jours en allant à l'entraînement, forcément, ça donne des idées.
Ah oui, forcément. Quand on va au collège ou à l'école le matin, quand on passe devant la flamme, ça donne envie de la porter et de la faire briller. Un dernier mot avec toi, Marie. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera notre invité sur RMC et sur BFM Télé lundi matin entre 8h20 et 9h. Il va être question notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, puisqu'il sera interrogé par trois athlètes qui sont David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet qui lui est un para-kayakiste hein, qui a été un ancien membre des forces spéciales et qui a été blessé. Donc tu vois, le monde de l'handisport sera représenté également. Est-ce que tu aurais quelque chose, une question à poser ? Alors je te prends peut-être un peu au déboté là, mais il y a quelque chose dont tu aurais envie de parler au président de la République justement à l'abord de ces Jeux Olympiques et Paralympiques ?
Alors c'est vrai que je suis pas trop dans l'ambiance d'une discussion avec un président de la République aujourd'hui, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question. Mais ouais, je dirais qu'est-ce qui est prévu en France pour continuer à placer le sport au centre des vies des Français, parce que je suis convaincue, je suis une des premières convaincues que le sport fait que du bien et que c'est important de le développer dans la société. Donc ce sera ma question.
Très bien, eh ben on parlera évidemment de ça avec lui, ce sera lundi matin. Merci beaucoup Marie,
merci
je te souhaite
beaucoup.
Une belle journée, d'enterrement, une belle fête sous le soleil des saisies. Il y a encore de la neige, hein. La station est...
Elle ferme le week-end prochain.
D'accord, voilà. Donc il faut vite en profiter si on veut encore faire un peu de ski. Merci beaucoup Marie, et
merci
belle deuxième vie. À très
au
bientôt.
Revoir, merci.
Marie Bochet, donc octuple. quintuple championne paralympique de ski alpin. 14h55, rapidement un point sur nos directs. Les deux événements tennis avec la demi-finale, la première demi-finale à Monte-Carlo avec Eric Salio. Le premier set est pour Tsitsipas. Sinner s'est bien réveillé dans la deuxième manche. Hein.
Ah, je pense qu'on pourra passer un bon moment ensemble avec cette fin de première demi et puis la deuxième demi derrière avec Djokovic et Ruud, parce que Sinner a réagi en champion, j'allais dire en numéro mondial, qu'il est sur cette année 2024, mais il n'est pas dans les faits, bien sûr, puisqu'il mène 4 jeux à 2 dans cette deuxième manche. On sent qu'il a appuyé sur le champignon, passez-moi l'expression. Mais attention, Tsitsipas joue très bien, il va se battre jusqu'au bout, mais c'est très possible donc qu'on ait un troisième set.
Eh ben, on va suivre ça avec toi, on reste avec toi. Et Anthony, lui, est toujours au portel pour ce match entre la France et la Grande-Bretagne. C'est très serré entre les deux jeunes femmes, Anto.
Ouais, et à l'instant même, Katie Boulter, la Britannique, qui vient d'empocher le premier set, 7 jeux à 5 après presque une heure et quart de jeu dans ce premier match de la deuxième journée de ce tour qualificatif. Une énorme bataille dans cette première manche, mais Clara Burel a cédé sur la deuxième balle de set, on le rappelle, au score global de la rencontre qualificative pour la phase finale de fin de saison. La France et la Grande-Bretagne sont à un point partout après la première journée. Donc c'est vraiment une rencontre décisive pour l'avenir des Bleus dans cette compétition.
Et il y aura donc un quatrième simple tout à l'heure entre
avec Diane Paris.
Paris face à Raducanu.
Oui, tout à fait. Victorieuse de l'US Open.
Retrouve un peu de sa gloire passée. Et Raducanu. 14h57, vous êtes sur RMC. Les infos arrivent dans un instant et nous revenons juste après avec d'autres directs qui vont nous rejoindre. La Ligue 2, Ajaccio Saint-Etienne. On va s'intéresser aux demi-finales de la Champions Cup et on va revenir un peu plus en détail donc sur le tennis et ces deux événements avec Eric et Anthony. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h07, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport se poursuit. Deux directs en cours, c'est le tennis et puis un autre direct qui se joint à la fête. On va tout de suite y aller d'ailleurs, puisque ça fait toujours du bien d'aller faire un tour en Corse, surtout comme ça avec le printemps qui revient. Jean-Philippe Scapula pour Ajaccio Saint-Etienne. Salut Jean-Philippe, c'est la 21e journée de Ligue 2.
C'est un petit peu plus que ça même, c'est la 32e journée.
Mince alors, j'en ai oublié quelques-unes. 32e, tu as raison.
Bon dire à tout, et bienvenue au stade Michel Moret. Tu parlais de conditions printanière. On est quasiment dans des conditions estivales aujourd'hui. Il fait très beau, très chaud pour cette ouverture de cette 32e journée de L2 qui démarre donc par un choc entre deux équipes aux dynamiques complètement opposées. Pour preuve, l'ACA qui reste sur une série, petite série de 3 points pris sur 21, à peine. La dernière victoire des Corses date du 10 février. À l'inverse, les Verts, on n'arrête plus les Verts, ils sont irrésistibles avec 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Et une stat résume vraiment la forme actuelle et les perspectives surtout pour la fin de saison de ces deux équipes. À la trêve hivernale, rendez-vous compte, les Verts avaient 2 points de retard sur les Corses. Ils en ont aujourd'hui 15 d'avance. Donc les objectifs sont clairs. La montée directe pour les Verts, le maintien pour les Corses parce qu'ils commencent à revenir derrière. Il va falloir prendre des points pour éviter une fin de saison d'angoisse. C'est parti depuis 7 minutes ici à Michel Moret, parce que ça n'a plus François Coty, et toujours 0-0 entre l'ACA et
Ouais, mais c'est ça aussi, on change de nom, on change la journée. Voilà, moi j'ai voulu te rajeunir de 11 journées, et voilà. Et
ben... J'étais mieux il y a 11 journées, j'étais plus frais.
Merci Jean-Philippe, à tout à l'heure pour ce Ajaccio Saint-Etienne qui ouvre donc cette 32e, je dis bien 32e journée de Ligue 2. Il y aura notamment tout à l'heure à partir de 19h Bordeaux-Bastia, Caen, Rodez, Concarneau-Amiens, Dunkerque-Guingamp, Laval-Annecy, QRM Auxerre et 3 Paris Football Club. Et le dernier match, ce sera Valenciennes face à Pau. 15h09, le tennis, ça va pas très fort pour les Françaises dans ce match de barrage de Billie Jean King Cup.
Tu l'as bien dit.
J'ai bien dit.
Christophe, oui, c'est compliqué pour Clara Burel, la Française de 23 ans, qui a perdu la première manche face à Katie Boulter, 28e joueuse mondiale. 7 jeux à 5, 1-0 pour la Britannique dans la deuxième manche. Et Clara Burel qui est au service 30A. On le rappelle sur l'ensemble de la rencontre, un point partout avec les deux premiers simples d'hier. Il faut 3 points pour se qualifier pour cette phase finale qui aura lieu en fin de saison. Mais c'est un peu compliqué en ce moment pour Clara Burel qui s'accroche tout de même. Elle va déjà devoir défendre une première balle de break sur son service dans ce premier jeu de service du deuxième set. 1-0, on le rappelle, dans ce deuxième set pour Katie Boulter.
Voilà, match important parce que...
Bah, ça te permet de faire la bascule sur cette deuxième journée. Derrière, il y a un deuxième simple. Et si Katie Moulter s'impose face à Clara Burel, et Mara Aducanu aura l'occasion de composter le billet des Britanniques pour la phase finale.
Aducanu qui est donc de retour. C'est vrai qu'elle avait complètement disparu de la
carrière
circulation.
Carrière très
incroyable,
compliquée.
Cette jeune
très
femme qui, avait, qui s'était révélée aux yeux du grand public en remportant l'US Open. En plus, superbe joueuse, très sympa et qui a disparu. Alors c'est sans doute la difficulté d'avoir remporté cette US Open trop jeune peut-être.
Ouais, et puis derrière il y a eu beaucoup de choses à gérer pour elle en Angleterre. Elle est devenue une icône assez incroyable, beaucoup de marques sont venues évidemment la chercher et elle a changé de staff très rapidement notamment et maintenant elle est au-delà de la 300e place mondiale. Et Mara Aducanu après avoir gagné un US Open, c'est quand même assez fou et elle est encore assez jeune c'est ça qui est donc, bon, elle a encore beaucoup de temps devant elle dans sa carrière, mais elle retrouve des sensations, elle rejoue un petit peu, ça va mieux. Et hier, notamment, elle a battu Caroline Garcia lors du deuxième simple.
Un mot d'ailleurs de Caroline Garcia, ça continue, les montagnes russes continuent.
C'est
pour
ça.
Elle.
C'était un match, si j'ose dire, Caroline Garcia. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier set vraiment impressionnant de la part de la Française qui a pris cette première manche 6 jeux à 3. Et derrière, elle avait le break dans la deuxième manche, elle avait plutôt le match en main. La machine s'est un petit peu enrayée, Raducanu a mieux joué et le match s'est envolé. Et c'est peut-être aussi pour ça, elle a peut-être accusé le coup hier soir. Julien Benneteau ne l'a pas remise pour les simples et c'est donc Clara Burel qui débute cette journée.
Il connaît le mental malheureusement un peu défaillant de sa championne et donc il a préféré mettre Clara Burel. Mais enfin, c'est pas beaucoup mieux pour Clara Burel.
Elle vient d'être breakée là.
Qui est breakée et qui a perdu sa première manche. 2-0 pour l'anglaise. Éric Salio, toujours au soleil de Monte-Carlo pour ce premier simple. Et notre ami Sinner est en train de servir pour essayer d'égaliser un set partout, Eric.
Ouais, mais c'est pas simple puisqu'il est, il est à 15-40, 5-3 pour l'Italien, mais 15-40 sur sa mise en jeu. Il va devoir sauver lui aussi des balles de break pour revenir sur Raducanu. Ce qui est dingue, c'est qu'elle va avoir besoin d'une wildcard pour Roland Garros. Si Gilles Moreton ne lui tend pas la main, elle peut pas jouer Roland. C'est aussi simple que ça. Elle peut même pas jouer les qualifs. Elle peut même pas jouer les qualifs.
Oui, elle est hors du cut des qualifs là.
Son classement est tombé tellement bas que c'est complètement dingue. Et mais moi je suis pas inquiet pour les filles. Là. De toute façon c'est écrit, c'est Garcia Mladenovic qui vont rapporter le
double point décisif.
Double décisif, c'est écrit. C'est pour le suspense, ça, Christophe. Ah, faut pas s'inquiéter. Pour un bal de break sauvé par Yannick Sinner avec un énorme coup droit. Donc il a encore une menace à repousser. Je rappelle que la deuxième demi opposera tout à l'heure Novak Djokovic à Casper Ruud. Novak Djokovic qui dégage pas une grosse impression depuis le début de la semaine. On l'a vu tremblotant sur sa chaise il y a deux jours, chancelant hier, et il reconnaît des problèmes physiques. Donc moi j'ai hâte de voir ce que peut faire Casper Ruud, même si au face à face il y a 5-0 pour le Serbe. Mais j'ai trouvé Casper Ruud très très bon hier contre Hugo Humbert. On va suivre cette deuxième balle de débreak parce que ça peut évidemment relancer complètement le grec. Oh là, elle est faute, il y a de égalité. Il m'a fait peur Sinner parce qu'il a glissé après son service, mais heureusement le retour de Tsitsipas est à out. Donc il est à deux points d'égaliser, à une manche partout, le transalpin.
Eh oui,
du sud Tyrol, une région que tu connais bien, Christophe, non?
Ah oui, j'ai fait du ski.
Ça me tient pas.
Il est originaire des Dolomites, c'est ça, Sinner?
Le sud Tyrol. D'ailleurs, les confrères italiens me disaient, Sinner, il parle mieux suisse allemand que.
Dans cette région, là, ils ont tous des noms, à consonance germanique. Il y a eu de grands skieurs italiens. Et en biathlon également, il y avait beaucoup de noms à consonance germanique. C'était un territoire autrichien.
Mais t'as failli le commenter en gagnant des cours de ski parce qu'il était très fort au ski étant jeune.
J'avais lu ça. Ouais.
Et il a finalement fait un choix vers 13-14 ans, donc d'aller dans l'académie Piatti à quelques kilomètres d'ici, à 20 bornes de Monte-Carlo.
C'est vrai qu'il ne ressemble pas tellement à Alberto Tomba quand même.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu sais que j'ai croisé des fameux Carota Boys. C'est des gens qui sont habillés tout en orange dans les tribunes de Monte-Carlo. C'est la nouvelle communauté italienne. Ils sont complètement dingos de Yannick Sinner. C'est vrai que c'est devenu une star incroyable. Et là, je ne vous l'ai pas dit. Vous avez vu son bilan de début d'année, 25 victoires, une seule défaite. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et il continue, alors qu'il n'y a pas longtemps, il était à Miami sur dur. Et bien là, il est aussi fort sur terre que sur dur. C'est impressionnant. Balle de 7 pour Yannick Sinner. Ouh là là, superbe flèche de Tsitsipas. Coup droit, pleine ligne, donc égalité. C'est un jeu très accroché. Je pense que le grec, il a envie d'en finir en deux parce qu'il voit bien que Sinner joue mieux. Donc c'est un jeu évidemment où les deux vont tout donner. Donc 1-7 pour Tsitsipas, 5-3 Sinner et égalité.
Très bien, bon, on reste avec toi. Allez, on va vivre la fin de ce set parce que c'est très chaud.
Oui, parce que Clara Buell est en train de piquer du nez, donc si je comprends bien.
Oui, toujours oui, malheureusement. Quasiment 3-0. Ouais.
Je comprends pas. Alors qu'hier, elle a été catastrophique, Boulter. Hein. Elle a fait deux jeux seulement contre Diane Paris.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que Boulter, dans toute sa carrière, n'a joué que 8 fois des tournois sur terre battue.
Voilà, ah ouais, circuit secondaire compris. La terre battue.
C'est presque ça. À 27 ans. Ouais. C'est assez surprenant. Et Diane Paris.
Un match pour s'habituer.
Et voilà. Et là, elle est beaucoup plus en jambes aujourd'hui. Et 3-0 dans le deuxième set pour Boulter, justement. À l'instant, face à Clara Burel, la Britannique qui mène, qui a pris le premier set, 7 jeux à 5. Et donc 3-0 dans la deuxième.
Et balle de débreak à venir pour Stéphano Tsitsipas qui ne veut pas lâcher cette deuxième manche. Il a raison. Il sent qu'il y a des opportunités. C'est vrai que Sinner, bon, il a fait la course en tête, mais il a raté deux points, mais tout fait, que même moi je n'aurais pas raté. Mais bon, voilà, ça prouve qu'il n'est peut-être pas totalement concentré. Il y a peut-être aussi une usure mentale, parce qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il est invincible. Il y a un moment, c'est le cerveau, il a du mal à accepter tout ça. Et peut-être que ça viendrait comme un soulagement de perdre un deuxième match, parce que sinon, s'il gagne Monte-Carlo, on va tout de suite en faire le favori pour Roland. Hein. Vous savez comment sont les journalistes. Hein.
Pénalty à Ajaccio.
Pénalty à Ajaccio. Avantage donc. Tsitsipas, il est mené 5-3 dans cette deuxième manche. On y va. Jean-Philippe, le péno.
Ah, un pénalty en faveur des Corses hein, sur ce corner tiré par Michael Barreto. C'est une reprise assez à bout portant hein, de Tim Jabol, il me semble, dans le trafic. Ça a été visiblement repoussé de la main par un défenseur stéphanois. Et monsieur l'arbitre, monsieur Legata, n'a pas hésité. Il a immédiatement indiqué le point de pénalty. Ça sera donc un pénalty en faveur des Corses après 15 minutes. Toujours 0-0 ici entre Ajaccio et Saint-Etienne, mais la CA qui a l'occasion d'ouvrir le score, il va se passer quelques secondes puisque les Verts semblent protester, mais monsieur Legat semble sûr de lui. Il y a même eu un carton jaune à l'encontre de, c'est il me semble, Bouchoir, le milieu terrain stéphanois, qui a contré donc ce ballon de la main qui semblait prendre la direction du but. C'est Christopher Ibai, la recrue d'hivernale des Corses, qui va se charger de ce pénalty. Il a marqué 4 buts hein, depuis qu'il est arrivé, depuis le mois de janvier. Une vraie plus-value pour les Corses. Mais il a l'occasion de marquer son 5e but. Et là, je crois que c'est Olivier Dalloglio qui va se faire un petit peu rappeler à l'ordre, le coach stéphanois, par M. Legat. Il a semblé. Non, c'est l'un de ses adjoints qui va être averti. Oui, qui semble rouspéter, qui conteste fermement cette main. C'est vrai que
chaud,
le
chaud.
Ouais, c'est un petit peu chaud. Ouais. Il fait chaud, il fait beau, et c'est un petit peu chaud. Sous les yeux d'ailleurs de plusieurs centaines de supporters stéphanois, un beau parquage pour les Verts. Et c'est l'adjoint donc, qui est carrément exclu. Hein. Il a nargué un petit peu le quatrième arbitre, il a applaudi. Et M. Legat qui l'a exclu. Donc ça, sans incidence pour la suite du match. En tout cas incidence numérique, puisqu'il s'agit simplement d'un membre du staff d'Olivier Dalloglio. Et en attendant, c'est Christopher Ibai qui se concentre, hein, Gauthier Larsonneur là qui discute encore avec monsieur Legat, les Verts qui protestent énormément sur cette main. Alors c'est vrai que il y avait la trajectoire était très courte hein, au moment de la volée de l'attaquant ajaxien, et c'était compliqué, mais bon, la main semble évidente de là où on est. Donc c'est donc Christopher Ibai qui prend son élan, qui va vouloir ouvrir le score pour les Corses après 16 minutes de jeu. Monsieur Legat qui siffle, il baillit la course d'élan et l'ouverture du score pour la CA, signé Christopher Ibai, son 5e but de la saison. Les Corses qui entament ce match de la meilleure des manières, 1-0 pour la CA après 16 minutes de jeu.
Merci Jean-Philippe. Tout de suite le quintet du jour, ça se passe je ne sais où, avec Mathieu Zaccagni et Stéphane Vincennes. Ça y est, j'ai l'info.
Exactement.
Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous. Au moment où on est arrivé devant le poteau, tu as pris la main et la victoire est venue donc tout à la fin. Hein, un outsider numéro 10, Jiwel Komfeldfak, qui a devancé l'une des favorites, hein, le numéro 9, Joconde Sibé. La troisième place est revenue au numéro 11, hein, qui était Giga Pride. La quatrième, un outsider numéro 10, Jasmine Deveau. Et enfin, c'était encore un outsider, le numéro 5, James Mab, qui s'est classé 5e, ce qui nous donne l'arrivée provisoire de cette épreuve, qui était une belle épreuve, puisque c'était un groupe 2 réservé aux femelles âgées de 5 ans disputées sur la distance des 2700 mètres. Il y avait une non partante, c'est le numéro 3, Jean-Ki de Mitte, et la victoire a donc venu au numéro 10 devant le numéro 9. La troisième place est revenue au numéro 11, la quatrième au numéro 1, et enfin c'est le numéro 5 hein, qui a complété le quintet plus du jour, ce qui nous donne une arrivée provisoire de ce quintet disputé aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. 10, 9, 11, As et 5, et donc je reviendrai, Christophe, vous donner l'arrivée et les rapports définitifs qui risquent d'être assez intéressants à 16h. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Rapidement, est-ce que c'est terminé à Monte-Carlo pour la deuxième manche, Eric, ou pas encore?
Ah non, c'est vraiment le jeu du match. Pour l'instant, on est toujours à 5-3. Sinner vient d'effacer, je crois que j'étais en train de vérifier, 4 ou 5 balles de débreak. Et il y a 40 as sur le service de l'Italien. Il vient d'expédier un coup droit monstrueux pour sauver la balle de break. Mais c'est un jeu clé, comme on dit, charnière. Ça, c'est évident.
On revient vers toi dans un instant. Et les Françaises Clara Burel qui perd pied là.
Hein. Ouais, elle est en train de baisser pavillon. Elle est menée 3-0 dans ce deuxième set. Et elle vient de sauver une balle de 4-0 en faveur de Katie Boulter qui a remporté la première manche 7 jeux à 5.
15h20 sur RMC, on continue de suivre tous ces directs. Je vous rappelle qu'à 16h on suivra également le rugby avec le premier des quarts de finale de la Champions Cup entre l'Union Bordeaux-Bègles et l'Arles-Quitz. Et dans un instant on va parler de basket avec la magnifique victoire du Paris Basket hier qui s'est imposée en Coupe d'Europe. On sera avec son directeur sportif Amarassi qui viendra nous parler des ambitions de ce club qui remporte là une compétition très importante pour son avenir. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h24 sur RMC, l'intégral sport. On va parler basket dans un instant. Un tout petit mot quand même de tennis. Point sur les scores, justement. À Monte-Carlo, Sinner a finalement remporté la deuxième manche, Eric. Hein.
Ah ouais, à l'issue d'un jeu vraiment formidable. Donc, un set partout. 6-3 Sinner. Les deux joueurs sont partis au vestiaire se changer dans un seul joueur. Et donc, ça va reprendre dans 2-3 minutes.
Et au Portel, ça va de mal en pis pour les Françaises.
Ouais, et les jeux défilent, Christophe, dans la deuxième manche. 5 jeux à 0 pour Katie Boulter face à Clara Burel, la jeune Française, du membre du top 50, est en train de complètement craquer dans cette troisième rencontre de cette opposition face à la Grande-Bretagne. Un point partout au score global, donc les Britanniques qui pourraient prendre les devants avec ce deuxième point pour Katie Boulter.
Très bien, merci. 15h25, il est temps de parler de basket. Arnaud Valadon m'a rejoint parce qu'évidemment, c'est notre expert. Ça va Arnaud ?
Salut Christophe, ça va très bien.
J'ai vécu hier soir un moment magique.
Très beau match, très belle ambiance à Bourg, très beau match aussi et un très beau champion.
Exactement, le Paris Basketball, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, autrement on va se faire taper sur les doigts. Il ne faut pas dire Paris Basket, il faut dire Paris Basketball. C'est comme ça, c'est le nom du club. On est avec son directeur sportif, ancienne gloire du Paris Basketball, Amarassi qui est avec nous. Bonjour Amara, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bon Amara, est-ce que vous avez fêté ça hier soir, une victoire en Coupe d'Europe? J'imagine que voilà, on a bu quelques petits verres après le match, non?
Oui, certains ont bu quelques petits verres. On ne boit pas tous, heureusement d'ailleurs. Mais oui, on a fêté ça comme il se doit, sur place. On aurait souhaité le faire avec nos supporters. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, pour ceux qui sont pas loin, je vous invite à venir nous rejoindre à la mairie du 18e, où on présentera le trophée aux fans qui n'ont pas pu faire le déplacement, et pour fêter avec eux.
Ah ouais, ça va être un beau moment, évidemment. C'est le problème des matchs aller-retour. Mais bon, j'imagine que c'est quand même plus tranquille d'avoir décroché cette coupe dès le match retour, en évitant le match d'appui quand même, Mara. Hein.
Évidemment, pour avoir échangé avec pas mal de personnes, la plupart nous supportaient, mais souhaitaient quand même qu'on joue un match 3 à domicile pour pouvoir fêter avec le public, pardon. Mais à ce niveau-là, on peut pas prendre de risques. Et si on pouvait conclure la série hier, on allait le faire et on s'est pas loupé. Les gars ont été forts mentalement parce que c'est pas évident de s'imposer à Equinox. C'est une salle qui est réputée par son ambiance, avec le soutien de ses supporters qui ont été au rendez-vous hier. Mais encore une fois, nous, de notre côté, on a été très très solides. On s'est mis dans une bulle, on a fait ce qu'on avait à faire et puis fort heureusement, on remporte l'un des premiers titres de notre histoire. Mais bon, je peux le dire sans me tromper, le plus important.
Amara, l'accélération du projet Paris Basketball est fulgurante cette saison. On rappelle, créé en 2018, ils partent en deuxième division avec les droits sportifs de Hier Toulon, club alors à l'agonie, racheté, monté en élite en 2021 avec Amara joueur encore à l'époque. Et deux saisons difficiles où il a fallu aller chercher le maintien parfois lors des des dernières journées de championnat, Mara. Et cette saison, avec ce nouveau coach, Thomas Sisalo, 6 joueurs arrivés de Bonn avec lesquels il avait remporté la BCL, qui est l'autre compétition européenne un peu moins prestigieuse que l'Eurocup et qui est organisée par la FIBA et non par l'Euroleague. Mais cette saison, vous avez déjà gagné votre deuxième trophée, la Leaders Cup. Là, l'Eurocup avec ce ticket Euroleague et vous êtes deuxième du championnat. C'est fou les progrès.
Non, c'est juste hallucinant. Et puis c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas vraiment compte. Mais hier, je me suis posé un moment et j'ai réalisé à quel point c'était phénoménal ce qu'on a accompli. Parce que comme vous l'avez dit, il y a encore 6 ans le club il n'existait pas. Il y a 3 ans on était en Pro B. Puis aujourd'hui et puis hier on a soulevé la Coupe d'Europe. Et cerise sur le gâteau, on est qualifié pour l'Euroleague. Tout en sachant qu'il y a très peu de temps, on a fait notre entrée à la Lidas Arena. Donc on a réalisé ça dans un timing parfait, j'ai envie de vous dire. Et dans ces 6 années-là, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 années de Covid. Donc ce qui rend la performance encore plus incroyable. Mais bon, c'est le travail de tout un club. Voilà. Des supporters qui nous poussent et un engouement derrière ce club. C'est juste magique en fait. Quand on était dans la salle, c'était mardi, pour le compte du match 1 des finales de l'Eurocoupe. On a fait ça le comble, il y avait une ambiance extraordinaire. J'ai très rarement vu ça à Paris. Donc tout ça, ça fait chaud au cœur, ça donne beaucoup de force pour continuer à travailler dans ce sens et aller chercher des exploits encore plus grands.
Alors c'est quoi les exploits encore plus grands? Il y a le titre de champion de France qui vous tend les bras, mais enfin il y a quand même Monaco, l'ASVEL qui sont
ils ne tendent pas les bras.
Ils vont pas. Ils vont,
Il y a une équipe qui s'appelle Monaco aussi.
Eh oui, je sais.
Monaco. Il y a des bras plus grands.
Qui ne voit pas ça du même œil, j'ai envie de dire.
Et qui d'ailleurs a remporté un match très important hier, hein, Monaco aussi.
Oui, qui sont en play-off d'Euroleague face
à Fenerbahçe. Là, justement, votre parcours ressemble un peu à celui de Monaco il y a quelques années quand même, à Mara. Hein, avec une formidable réussite et rien ne les arrête de
victoire en Eurocup aussi, Monaco, c'était il y a 3 ans.
Et derrière, l'Euroleague est arrivé pour une saison.
Et Amara joue à Monaco, il l'a vu aussi.
En plus, toi, tu as vu.
Je connais très bien.
Ouais.
Je connais très bien.
Alors raconte-nous justement les points qui se ressemblent.
C'est la même chose, moi. Bon, quand je suis arrivé à Monaco, c'était pareil. C'était un club qui venait de monter. Donc, moi, à l'époque, on avait fait appel à moi pour crédibiliser le projet. Et moi, ça m'avait plu d'entrer. Donc, j'ai dit go. Et puis, dès la première année, ça a été un succès phénoménal, puisque pour une première année dans l'élite, enfin, un retour dans l'élite, parce que pendant 25 ans, ça a été une traversée du désert, mais il y a eu des belles heures de gloire, notamment dans les années 80. Mais pendant plus de 25 ans, il y a eu une traversée du désert. Et puis, quand le club a fait son retour dans l'élite, on a eu un succès d'entrée. On termine en premier du championnat, en remportant une Leaders Cup. Donc déjà, ça a marqué au fer rouge un retour sensationnel de la part de la Roca Team. Et puis après, chaque année, on s'est amélioré. On a amélioré les résultats. Les joueurs de gros calibre ont atterri sur le rocher. Et puis, le club a grandi, ainsi que sa communauté. Et puis, c'est devenu une place, la place la plus forte du basket français actuellement. Bon, à Paris, c'est pareil, sauf que ça va quand même un peu plus vite.
Ouais. Et puis à Paris, il y a aussi l'engouement populaire, il y a cette nouvelle salle, il y a la culture du basket, vous êtes en plus limitrophe de la banlieue nord, où on sait que tous les gamins sont dingues de basket. Il y a un vrai plus peut-être à Paris par rapport à Monaco, Amara, toi qui connais les deux coins.
Non, justement, là c'est pareil, quand j'ai rejoint le club de Paris, je partais de Monaco justement. Avec un projet tout nouveau qui m'était présenté à l'époque. Et moi, quand j'en parlais avec le président David Kahn, j'avais des étoiles dans les yeux et j'avais hâte d'en être pour pouvoir réaliser de belles choses. Et aujourd'hui, ça prouve que j'ai fait le bon choix et que je ne me suis pas trompé, parce que c'est encore même au-delà de mes espérances. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un potentiel qui est juste énorme. parce que bah, on est sur Paris, c'est la capitale de la France. Paris est une marque. Les gens sont curieux de voir ce qu'on va faire parce qu'on apporte un nouveau vent de fraîcheur mais sur le terrain, mais pas que. En dehors du terrain, le travail a toujours été fait et on a toujours fait ce qu'on voulait sans regarder ce qui se faisait à côté. Et force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup, pour exemple, essaient de nous imiter. Voilà, je vais faire un petit peu... Je vais un petit peu me la raconter, comme on dit, mais c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Hein. Beaucoup de clubs essayent de nous copier parce qu'on est un club qui parle à la jeunesse, un club qui est dans l'air du temps et un club qui n'a pas peur d'afficher ses ambitions, tout simplement. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour...
je crois que ça sonne à la porte là. Oui, il y a quelqu'un qui est énervé.
Oui, il était énervé derrière la porte là. Donc c'est bon, j'ai ouvert. C'est les aléas du direct.
C'est génial. Une dernière question.
Et du coup, oui, ce que je disais, c'est que on, malgré qu'on soit un jeune club, on a un club qui est quand même très inspirant. Moi, je sais que je rencontre tous les jours des gens dans la rue qui félicitent le travail qui est accompli par le club jusqu'à maintenant et qui nous poussent et qui ont hâte de voir la suite parce que c'est clair que ça donne envie et on veut voir jusqu'où on peut aller.
Ouais, c'est magique pour le petit gars de Pigalle que tu es de voir son club comme ça arriver au sommet. Je crois que Arnaud a une dernière question après on va libérer.
Oui, rapidement, Amara, est-ce que tu imagines la montagne de travail qui vous attend avec le ticket pour l'Euroleague, même si le président David Kahn a dit qu'il va falloir se mettre à table pour discuter des conditions pour rendre ça évidemment une présence pérenne et pas uniquement un one shot, puisque quand on gagne l'Eurocup, on est invité que pour un an et donc il y a évidemment des discussions, mais la montagne de travail, parce que finalement, ça ne fait que commencer pour le Paris Basketball.
C'est ça qui est beau. Les gens peuvent penser que le titre de champion d'Europe et le ticket pour l'Euroleague sont une finalité. Mais non, comme vous venez de le dire, c'est que le début et c'est ça qui est excitant. Nous, comme j'aime bien le dire, l'appétit vient en mangeant. Forcément, on veut plus. On sait qu'on a un potentiel. On est un jeune club. Je fais partie des personnes les plus vieilles du club. Imaginez-vous. Le coach, il est plus jeune que moi. Les assistants, n'en parlons pas. Dans les bureaux, c'est ultra dynamique. Ils ont tous en moyenne 25 ans, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est comme je dis, c'est un nouveau vent de fraîcheur. Les gens sont très motivés. Et puis, comme les résultats sont au rendez-vous, ça donne encore plus de force pour pousser nos limites encore plus loin et réaliser de grands exploits. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour Paris, mais c'est aussi bon pour le basket français. Donc, si on peut rajouter une troisième locomotive pour tirer et pour élever le basket français. On sait qu'il y a déjà, bien sûr, Monaco, l'ASVEL. Maintenant, on peut rajouter Paris. Hein. Et donc, j'ai envie de vous dire, c'est de bon augure pour la suite et c'est le basket français qui gagne.
Eh ben voilà, on est ravis, évidemment, quand le basket français gagne, quand Paris gagne. Bravo Amara, bravo à toute l'équipe. Et
merci beaucoup.
Rendez-vous donc pour les prochaines échéances, les facilités.
Le championnat, ils sont deuxième Paris Basket. Et ce soir, Nadir Ifi, un des héros, sera l'invité Stephen Time aussi. On va beaucoup parler donc de cette victoire française.
Stephen, cinquième grand copain d'Amara. On avait reçu Amara, je m'en souviens, dans les grandes gueules, à l'occasion du match que vous aviez joué à Roland-Garros il y a quelques temps.
Contre Monaco.
C'était contre Monaco. Et à l'époque, Paris Basketball était un petit club. C'était petit encore.
Stephen, il me respecte pas là. Il m'invite quand, Stephen Time.
Il n'ose pas parler basket avec toi. Il sait que tu vas l'enterrer.
Non, il est chaud, Stephen.
Merci Amara. À très bientôt et bravo.
Merci beaucoup. Au plaisir.
Ciao. Donc directeur sportif du Paris Basketball. Merci Arnaud. 15h37, le tennis. Ça donne quoi, Monsieur Salio? Tout d'abord, la première demi-finale entre Tsitsipas et Sinner. La troisième manche.
Ah, il a pris un coup sur la tête, hein, Tsitsipas, en perdant ce jeu extrêmement serré qui a permis à Sinner de recoller une manche par sous, puisque dans la foulée, l'Italien a breaké le Grec. Donc 2-0 pour Yannick Sinner, pour le plus grand plaisir des 9000 supporters fans du jeune Italien. Donc 2-0, c'est Tsitsipas qui est au service et normalement, il devrait remporter sa mise en jeu. C'est une question de seconde. C'est fait 2-1. Sinner va servir après une petite pause fraîcheur.
À tout à l'heure, Eric. Et puis malheureusement, c'est terminé pour Burel, Anthony Reich, dans ce match face à l'Angleterre.
Ouais, la Française qui a cédé en 2-7, 7-5, 6-0. Une route bicyclette pour terminer cette rencontre. Et les Britanniques, grâce à Katie Bolter, qui prennent les devants dans ce match qualificatif de Billie Jean King Cup. 2-1 pour les joueuses britanniques. Diane Parry va entrer sur le court d'ici une quinzaine de minutes pour essayer de garder les Bleus en vie dans cette rencontre face à Emma Raducanu, vainqueur de l'US Open notamment.
Merci Anthony. 15h39. Dans un instant, le rugby. Bah oui, ça y est, les quarts de finale de la Champions Cup arrivent. Ah tiens, j'allais oublier Jean-Philippe Scapu là pour le match de foot de Ligue 2 entre Ajaccio et Saint-Etienne. On en est où, Jean-Philippe?
Ah, il reste 7 petites minutes avant la mi-temps. Ce sont les Corses qui mènent 1-0 depuis la 16e minute et ce but sur pénalty de Christopher Ibaï. Les Corses qui ont un avantage mérité parce que ce sont eux qui ont la main sur ce match. Les Verts assez décevants. Aujourd'hui, 1-0 pour la CA.
15h39, l'UBB reçoit les Harlequins. C'est le premier des quarts de finale de la Champions Cup. On en parle dans un instant avec Paul Laffitte et avec Julien Brugno. Et puis il y aura aussi derrière, en suivant, Leinster face à La Rochelle. Ambiance de folie à Dublin. On en parlera avec Romain Asselin tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h42 sur RMC. Tiens, vous le savez, mercredi, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Et à l'occasion, nous vous offrons 100 places sur RMC dès aujourd'hui dans chaque émission de l'antenne. Vous allez pouvoir remporter vos 2 places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques, que ce soit la cérémonie d'ouverture, les finales d'athlétisme, le judo, le tennis de table, la natation et bien plus encore. Vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16 avec ou sans espace entre Paris et 2024. Donc Paris 2024 au 7-32-16. Prochain gagnant tout à l'heure. Inscrivez-vous. 15h42 sur RMC. Le tennis, Eric Sinner qui continue sa marche en avant vers la qualification pour la finale.
Oui, il mène 3-1 dans cette troisième manche. Je rappelle qu'il avait perdu le premier 6-4, 6-3 dans le deuxième après un neuvième jeu terrible d'intensité. Et là, il a pris le large. Alors que je vois la Méditerranée, c'est le cas de dire, il a pris le large. 3-1.
Ah, tu vois la Méditerranée. J'ai envie d'aller piquer une tête là, hein, quand on voit ça.
Hein. J'ai vu des avirons passer. J'avais jamais vu ça là, dans ma petite cabine. Il y avait deux avirons, un 8 quoi, qui pagayaient sur la Méditerranée. C'était magnifique.
Magnifique, magnifique. C'est magnifique. Très beau coin, très belle région. Oui. J'aime bien que tu reconnaisses. À tout à l'heure, Eric. 15h43. Julien Brugnon nous a rejoint. Salut, Julien.
Bonjour,
l'homme
Christophe,
du rugby. L'homme du rugby sur RMC, ancien pilier international, ancien pilier du Munster, ancien pilier du Racing et qui va voir notamment deux excellentes rencontres cet après-midi. Franchement, là, oui. Les quarts de finale.
On va se régaler pour les amateurs du rugby. C'est
Leinster, La Rochelle, 18h30. Oui. On aura très peu le temps d'en parler. On ira juste faire un petit tour voir Romain Asselin pour qu'il nous dise l'ambiance. Et puis, on va commencer avec UBB Harlequins. Là, c'est normalement du grand jeu, du rugby champagne.
On attend du rugby champagne parce que les Harlequins nous ont habitués, sortis un peu du carcan de ce jeu anglais très stéréotypé, très cadré. Et non, à la baguette, quand on a un joueur qui s'appelle Marcus Smith, eh bien on se fait plaisir, on se met dans son dos et on le suit.
Et quand on dit champagne, voilà qui apparaît. Paul Laffitte, boum boum badaboum, c'est notre Jean-Paul Belmondo à nous, évidemment. On l'a envoyé à Bordeaux, il a quitté sa belle région paloise pour le stade Chabandelmas. Salut Paulo.
Salut Chris, salut Julien, bonjour à toutes et à tous.
Bon, normalement tu devrais te régaler cet après-midi, hein. Alors déjà,
je vais me régaler, Christophe, parce que je vais commenter ce match en short cet après-midi, car il fait quand même 30 degrés dans l'enceinte de Chabandelmas, des conditions peut-être un petit peu trop chaudes pour les joueurs de rugby, en tout cas pour les spectateurs et pour l'ambiance. C'est une magnifique après-midi en perspective, évidemment, pour ce quart de finale de Coupe d'Europe.
Les Anglais vont fondre à 30 degrés là.
Ouais, ils sont assez nombreux. Hein, la colonie anglaise est bien présente.
Ah ouais. T'as raison d'en parler parce que ces premières chaleurs, ça peut être étouffant, surtout quand on veut mettre du volume de jeu comme ces deux équipes, ça peut limite gâcher un petit peu le spectacle qu'on attend.
Oui, effectivement. En tout cas, il y aura du beau monde sur cette pelouse de Chabandelmas, évidemment. Julien, tu le précisais, deux équipes ultra offensives depuis le début de cette compétition. D'ailleurs, Bègles-Bordeaux a marqué le plus de points, 217 unités au compteur, 32 essais et 67 franchissements. Ils sont intenables. Ils ont écrabouillé la semaine dernière les Saracens. C'était en huitième de finale, 45-12. Et ils vont donc tenter un bis repetita face à cette équipe des Harlequins, mais sans plusieurs joueurs majeurs. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Yannick Bru, le manager général de l'UBB, l'a précisé cette semaine en conférence de presse, puisque manqueront à l'appel le maître à jouer Mathieu Jalibert, qui souffre toujours de son genou, Thibaut Giroud, le principal l'orfèvre est à la tête de l'UBB depuis cette saison, qui était avec l'équipe de France avant, a déclaré si ça avait été une finale, Mathieu Jalibert aurait joué, mais ce n'est qu'un quart de finale et donc on veut préserver évidemment le joyau bordelais. Manque à l'appel également Damien Penaud.
Commence à faire lourd quand t'as pas ni Penaud ni Jalibert, les deux stars de l'UBB.
Ça commence à faire pas mal. Il souffrait d'une béquille après le match face au Saracens la semaine dernière. Il s'est testé ce matin à 10h. Il n'est pas apte lui non plus à jouer. Et devant, Diaby et Poirot ne seront pas là. Donc quatre joueurs majeurs qui vont manquer évidemment au coup d'envoi de ce quart de finale face au Harlequins.
Écoute, Huberti a déjà remplacé. Fois c'était Bielbarré. Huberti, c'est un autre profil. C'est pas le même profil que Bielbarré ou Penaud, mais il apporte beaucoup en tout cas. Je pense que sur ce poste-là, à l'aile, ils sont trois vraiment de à peu près même niveau. Penaud est légèrement au-dessus parce qu'il a ce côté facteur X. Oui, minimiser les performances des autres joueurs.
Les autres joueurs sont très bien, mais lui, c'est un méga joueur. C'est un des deux meilleurs joueurs français.
Christophe, Julien a raison de préciser qu'Huberti fait quand même très bonnes performances depuis de longues semaines.
C'est comme quand on compare Dupont avec Lucu. C'est comme quand on compare Dupont avec Lucu. Lucu, c'est le deuxième meilleur demi de mêlée en France, mais c'est pas le meilleur.
Dupont, c'est tout simplement le meilleur joueur du monde, Christophe.
Et Penaud, c'est pas le meilleur ailier au monde, Penaud ?
C'est certainement l'un des deux ou trois meilleurs ailiers au monde.
Je veux juste dédramatiser Christophe, qui est très inquiet pour l'UBB cet après-midi. Huberti fera le boulot, en tout cas, contre les Harlequins.
Je n'en doute pas, comme Buros et les autres, qui sont de formidables joueurs.
Et le petit Matteo Garcia, finalement, c'est un choix fort aussi, parce qu'il aurait pu forcer le prêt. C'est un match à couper. Il a laissé quand même Jalibert au paddock pour mettre le petit Matteo Garcia, qui grand.
Qui a été très bon, Christophe, quand même, la semaine dernière en huitième de finale, et qui, on peut le penser, sera aussi très très performant cet après-midi. Donc coup d'envoi, ce sera pile poil dans 12 minutes ici à Chabandelmas.
Eh ben, on sera avec toi et Julien et Flora pour vivre ce match. On fait un petit tour à Dublin rapidement pour faire un coucou à Romain Asselin, qui est là dans l'antre des Irlandais du Leinster, qui ont peur de se faire croquer une nouvelle fois par les Rochelais. Salut Romain.
Salut les gars. C'est guichet fermé depuis quelques minutes, c'est officiel. D'accord. 51 700 spectateurs. Incroyable quand même, remplir en une semaine.
Ça annonce un sacré match quand même. Est-ce que Ronan O'Gara a réussi à ramener des supporters du Munster
Ouais, et puis toi tu les connais, tu les as côtoyés pendant quelques mois. Il a passé la semaine, en tout cas le début de semaine, à Cork, 3 jours pour une préparation chez lui, finalement, sur les terres où il est considéré comme un dieu vivant. Il les a chauffés à blanc. Et le staff de La Rochelle espère qu'il y aura un morceau de l'arrêt d'Army pour pousser derrière La Rochelle cet après-midi.
On leur souhaite, en tout cas. J'ai entendu dire qu'ils avaient appris la chanson The Field of Attenreich, qui était le chant du Munster. Donc je pense que ça s'annonce une belle opposition.
Et va être une sacrée rivalité entre les deux.
On s'aime pas, c'est ce que disait Antonio cette semaine. On aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure. Merci Romain, à tout à l'heure. Chauffe-toi petit à petit pour le coup d'envoi qui aura lieu à 18h30, à suivre là aussi sur RMC. Il y a eu un but entre Ajaccio et Saint-Etienne.
C'est à nouveau un but d'Ajaccio. Cette fois, c'est Clément Vidal. Le même corner que pour le premier but qui avait amené au pénalty. Là, c'est encore Barreto, un pied droit magique qui dépose le ballon sur la tête de Clément Vidal, qui catapulte le ballon au fond des filets de Gauthier Larsonneur. Ça fait 2-0 pour les Corses, mais c'est mérité tellement les Stéphanois se sont montrés inoffensifs sur cette première mi-temps. Les Corses qui ont pris le match par le bon bout depuis le début et qui se voient récompensés. Ils ont fait le break, ils mènent 2-0 et le monsieur Legat qui devrait siffler la mi-temps dans quelques secondes. 2-0 pour les Corses, 2-0 pour Ajaccio face à Saint-Etienne.
Merci Jean-Phi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Flora Moussi, Julien Brugnot, Paul Lafitte, Anthony Irèche, Eric Salio, toute la bande est là pour vous faire vivre une magnifique après-midi de sport. À demain, ciao.
RMC Intégral Sport.